que l'on raconta vraiment, cela n'a dû arriver que bien avant mon temps. Je n'ai jamais entendu raconter personne. Autrefois, lorsqu'Abelone me parlait de la jeunesse de maman, il apparut qu'elle ne savait pas raconter. On prétendait que l'ancien comte Braheux avait encore su raconter. Je veux écrire ici ce qu'elle m'en a dit. Abelone, comme très jeune fille, devait avoir été d'une ample et particulière sensibilité. Les Braheux habitaient alors la ville, dans la Brède-Gade, et menaient une vie assez mondaine. Lorsque le soir, tard, elle montait dans sa chambre, elle croyait être fatiguée comme les autres. Mais alors, tout à coup, elle sentait la fenêtre, et si j'ai bien compris, elle pouvait rester debout devant la nuit, des heures durant, en songeant « Ceci me regarde ». « J'étais pareille à un prisonnier, disait-elle, et les étoiles étaient la liberté. » Elle ne pouvait s'endormir sans d'abord se faire lourde. L'expression « tombée de sommeil » ne convient pas à cette année de jeune fille. Le sommeil était je ne sais quoi qui montait avec vous, et de temps en temps on avait les yeux ouverts, et l'on était étendu sur une nouvelle surface qui n'était pas encore la plus élevée. Et puis l'on était debout avant le jour, même en hiver, lorsque les autres arrivaient endormis et en retard au petit déjeuner déjà tardif. Le soir, lorsque la nuit tombait, il n'y avait jamais que des lumières pour tous, des lumières communes. Mais ces deux chandelles allumées de très bonne heure dans une obscurité toute nouvelle, avec quoi tout recommençait, celles-ci vous appartenaient. Elles étaient plantées dans le chandelier bas à deux branches et semblaient brûler tranquillement, paraissant à travers les petits abat-jours de tulle ovale où des roses étaient peintes et qu'il fallait de temps à autre faire glisser plus bas. Cette nécessité n'avait rien de gênant. D'abord, on était nullement pressé, et puis il arrivait toujours de nouveau qu'on dût lever les yeux et réfléchir tandis qu'on écrivait une lettre ou quelques pages de ce journal qui avait commencé jadis avec une écriture tout autre, appliquée et belle. Le comte Braheux vivait très à l'écart de ses filles. Il tenait pour illusion qu'on prétendît partager la vie de quelqu'un. « Oui, oui, partager, disait-il. » Mais il ne lui déplaisait pas que les gens lui parlassent de temps en temps de ses filles. Il écoutait avec attention, comme si elles avaient habité une autre ville. On fut donc très surpris qu'un jour, après le petit déjeuner, il fit signe à Abelone d'approcher. « Nous avons les mêmes habitudes, il me semble. J'écris aussi de très bonne heure. Tu peux m'aider. » Abelone s'en souvenait encore comme si c'était de hier. Dès le lendemain matin, elle fut introduite dans le cabinet de travail de son père, dont on croyait l'accès interdit. Elle n'eut pas le temps de poser son regard sur tout ce qui l'entourait, car on l'assit aussitôt en face du comte, devant le bureau qui lui apparut comme une vaste plaine où les livres et les dossiers figuraient des villages. Le comte dicta. Ceux qui affirmaient que le comte Braheux écrivait ses mémoires n'avaient pas tout à fait tort. Mais il ne s'agissait ni des souvenirs politiques, ni des souvenirs militaires qu'on attendait de lui avec impatience. « J'oublie ces choses-là, » répondait brièvement le vieillard lorsqu'on l'interrogeait sur de tels faits. Ce qu'il ne voulait pas oublier, c'était son enfance. Il y était particulièrement attaché. Il lui semblait normal que ses temps très éloignés prissent à présent le dessus en lui et que lorsqu'il dirigeait son regard en dedans de soi, il fût cela, comme dans une claire nuit d'été des pays du Nord, extasié et sans sommeil. Quelquefois, il sursautait et parlait contre les chandelles dont les flammes vacillaient. Ou bien il fallait de nouveau biffer des phrases entières, et ensuite il allait et venait avec véhémence dans la pièce, et les pans de sa grande robe de chambre en soie vernil flottaient dans son sillage. Pendant que tout cela se déroulait, une autre personne était encore présente. Sten, le vieux valet de chambre jutlandais du comte, dont le devoir était, lorsque mon grand-père se levait en sursaut, de vite poser ses mains sur les feuillets détachés qui, couverts de notes, était répandue sur la table. Son Altesse se figurait que le papier d'aujourd'hui ne valait plus rien, qu'il était trop léger et s'envolait au moindre souffle. Estaine, qu'on ne voyait qu'à mi-corps, partageait cette méfiance et semblait en quelque sorte accroupie sur les paumes de ses mains, aveugle au jour et grave comme un oiseau de nuit. Ce Sten passait ses après-midi de dimanche à lire Swedenborg, et personne de la domesticité n'osait entrer dans sa chambre parce qu'on prétendait qu'il évoquait des esprits. La famille de Sten avait toujours entretenu des rapports avec les esprits, et Sten paraissait tout particulièrement prédestiné à cultiver ce genre de relations. Une vision était apparue à sa mère la nuit qu'elle accoucha de lui. Il avait de grands yeux ronds, et l'autre extrémité de son regard semblait se fixer toujours derrière la personne qu'il considérait. Le père d'Abelone s'informait souvent des esprits, de même qu'on a coutume d'interroger quelqu'un sur la santé de ses familiers. « Viennent-ils au moins, Sten ?» demandait-il avec bienveillance. « Allons, tant mieux, tant mieux !» La dictée se poursuivit ainsi quelques matins, jusqu'à ce que Abelone, un jour, ne sut pas écrire le mot « Ekernford ». C'était un nom propre et elle ne l'avait jamais entendu. Le comte qui, à la vérité, cherchait depuis longtemps un prétexte pour renoncer à écrire parce que la plume allait moins vite que ses souvenirs, se montra irrité. « Elle ne sait pas l'écrire, » dit-il sur un ton coupant, « et d'autres ne sauront pas le lire. Et verront-ils seulement ce que je veux dire ?» poursuivit-il de plus en plus colère, sans quitter des yeux Abelone. « Le verront-ils, ce Saint-Germain ? » s'écria-t-il tourné vers elle. « Avons-nous dit Saint-Germain ? Biffez, écrivez, le marquis de Bellemare !» Abelone biffa et écrivit. Mais le comte poursuivit en parlant si vite qu'il devenait impossible de le suivre. Il ne pouvait supporter les enfants, cet excellent Bellemare, mais tout petit que j'étais alors, il me prit sur ses genoux et j'eus l'idée de mordre ses boutons de diamant. Cela lui fit plaisir. Il rit et me leva le menton jusqu'à ce que nous regardassions l'un dans les yeux de l'autre. « Tu as d'excellentes dents, » dit-il, « tu as des dents vraiment entreprenantes. » Je tâchais cependant de garder le souvenir de ses yeux. J'ai traîné un peu partout depuis lors. J'ai vu toutes sortes d'yeux, tu peux m'en croire, mais je n'en ai pas revu de pareil. Pour ces yeux-là, il eût mieux valu que rien n'existât. Ils contenaient tout. As-tu entendu parler de Venise ? Bien, sache donc que ces yeux eussent projeté Venise dans cette chambre et qu'elle eût été là, comme cette table. J'étais assis un jour dans un angle de la pièce et je l'écoutais parler à mon père de la Perse. Quelquefois, il me semble encore que mes mains en ont gardé l'odeur. Mon père l'estimait, et son Altesse, le Landgrave, était un peu son élève. Mais il y avait naturellement beaucoup de gens qui lui reprochaient de ne croire au passé que lorsque le passé était en lui. Il ne pouvait pas comprendre que ce frusquin n'a de signification que lorsqu'on l'a eu de naissance. « Les livres sont vides !» s'écriait le comte avec un geste furieux vers les murs. « Le sang, c'est là ce qui importe, et c'est là ce qu'il faut savoir lire. Le sang de Bellemare contenait des histoires singulières et d'étranges images. Il pouvait ouvrir où il voulait, il trouvait partout quelque chose. Aucune page de son sang n'avait été laissée en blanc. Et lorsqu'il s'enfermait de temps en temps pour le feuilleter seul, il arrivait par exemple au passage sur l'alchimie, sur les pierres et sur les couleurs. Pourquoi toutes ces choses n'y auraient-elles pas figuré ? Il faut bien qu'elles figurent quelque part. Il eût aisément pu vivre avec une seule vérité, cet homme, s'il avait été seul. Mais il n'était pas facile de vivre seul avec un être tel que sa vérité. D'autre part, il n'était pas assez dépourvu de goût pour inviter les gens à l'aller voir lorsqu'il était en compagnie d'elle. Il ne voulait pas qu'elle prêtât à d'inutiles discours. Il était trop oriental pour cela. « Adieu, madame, » disait-il très sincèrement. « À bientôt. Peut-être dans 1000 années serons-nous plus forts et moins troublés. Votre beauté s'épanouira encore, disait-il, et ce n'était pas là une simple politesse. Puis il s'en allait et créait dehors, pour les gens, une sorte de jardin des plantes où il acclimatait des espèces de mensonges encore inconnus dans nos parages et une palmeraie d'exagération et une petite figueraie de faux secrets. Alors ils vinrent de toutes parts et il allait et venait, les chaussures ornées de boucles de diamants, et il n'était là que pour ses invités. Une existence superficielle, quoi. Au fond, il témoigna quand même d'un cœur chevaleresque à l'égard de sa femme, et il s'est assez bien conservé à mener cette vie-là. Depuis quelque temps déjà, le vieillard ne s'adressait plus à Abelone, qu'il avait oublié. Il allait et venait comme un fou, et jetait des regards provoquants à Sten, comme si Sten allait d'un instant à l'autre être transformé en l'objet de sa pensée. Mais Sten ne se transformait pas encore. Il faudrait le voir, poursuivait le comte Braheux avec acharnement. Il fut un temps qu'il était très visible, bien que dans beaucoup de villes, les lettres qu'il recevait ne fussent adressées à personne. L'enveloppe ne portait que le nom de la ville, rien de plus. Et cependant, je l'ai vu. Il n'était pas beau. Le comte rit avec une sorte de hâte étrange, ni même ce que les gens appellent important ou distingué. Il y avait toujours à côté de lui des hommes plus distingués. Il était riche, mais ce n'était de sa part qu'un caprice auquel il ne faudrait pas attacher d'importance. Il était bien conformé, encore que d'autres se tinssent plus droit que lui. Bien entendu, je ne pouvais pas juger s'il était spirituel, s'il était ceci ou cela, à quoi l'on met d'ordinaire du prix, mais il était. Tremblant, le comte se dressait et faisait un mouvement, comme s'il avait posé dans l'espace un objet qui resta immobile. À cet instant, il s'aperçut de nouveau de la présence d'Abelone. « Le vois-tu » l'interpella-t-il sur un ton impérieux. Et soudain, il saisit un candélabre en argent et en l'aveuglant, il éclaira le visage d'Abelone. Elle se souvint de l'avoir vu. Les jours suivants, Abelone fut appelée régulièrement et après cet incident, la dictée se continua plus calmement. Le comte reconstituait d'après toutes sortes de manuscrits ses souvenirs les plus anciens sur l'entourage de Bernstorff, auprès duquel son père avait joué un certain rôle. Abelone était maintenant si bien habitué aux petites particularités de son travail que quiconque eût vu leur collaboration empressée eût facilement cru qu'il s'agissait d'une intimité véritable. Un jour qu'Abelone voulait déjà se retirer, le vieux comte marcha vers elle et ce fut comme s'il tenait derrière soi une surprise dans ses mains. « Demain, nous écrirons sur Julie Ravenclough, » dit-il. Et l'on vit qu'il éprouvait une jouissance à prononcer ces mots. Ce fut une sainte. Sans doute, Abelone le regarda-t-elle d'un air incrédule. « Oui, oui, » maintint-il d'une voix impérieuse. « Il y a encore des saintes. Il y a de tout, comtesse Abel. » Il prit les mains d'Abelone et les écarta comme on ouvre un livre. « Elle avait des stigmates, » dit-il, « ici et là. » Et de son doigt froid, il toucha durement et rapidement les deux paumes de la jeune fille. Abelone ne connaissait pas le mot stigmate. « Nous verrons bien, » songea-t-elle. Elle était très impatiente d'entendre parler de la sainte que son père avait encore vue. Mais on ne la rappela ni le lendemain, ni plus tard. On a souvent parlé chez nous de la comtesse Ravenclough, concluait brièvement Abelone lorsque je la priais de m'en conter davantage. Elle semblait fatiguée. Elle prétendait aussi avoir oublié la plus grande partie de ces événements. Mais je sens encore quelquefois les deux marques, ajoutait-elle en souriant, et elle ne pouvait s'empêcher de regarder, presque avec curiosité, ses paumes vides.